Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Depuis la salle Le Bouillon sur le campus de l'Université Orléans en France, ici Alex Baillargeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud pour la 300e édition. Bon vendredi sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke, de Chiz 94.3 à Québec et grâce aux amis de Radio Campus Orléans également du 88.3, on vous présente cette 300e édition du deuxième service et ce sera dans un format complètement différent de l'habitude parce que faut se renouveler après 300 émissions du deuxième service, c'est sûr et certain. J'ai autour de moi les collègues de Chiz, Alexandre Tardif, Alexandre Leclerc et Yannick Pinard.
De CFAC, pas de Chiz.
J'ai dit Chiz, ouais, c'était évident que j'allais me tromper. Salut vous autres.
Salut les amis de Québec.
Évidemment, donc on est présenté la fin de semaine, mais pour l'instant... Première fin de semaine de juillet, effectivement, vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAQ 88.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Avec d'ailleurs jour en direct des studios de Sherbrooke. Contrairement au début d'émission du côté de Sherbrooke, qui était plutôt celui de la 300e. On est bien là, on est bien en direct. La preuve, 2 plus 2 égale 4. Vieille blague radio. Autre preuve qu'on est bien là cette semaine, il y a eu des élections dans les dernières semaines. On est à l'international depuis quelques jours, depuis quelques semaines même. On parle d'élections. En attendant de parler des nôtres, l'Europe et les États-Unis ont comme sujet principal les différentes campagnes électorales qui changent tranquillement pas vite le visage des cartes électorales parce qu'on décide de voter pour le parti d'opposition plutôt que le parti au pouvoir. Selon les derniers sondages, Canada-Québec ne ferait pas exception et voterait pour les oppositions et non pas les gouvernements au pouvoir, tant Justin Trudeau que François Legault. On l'a vu au débat américain, qui fait encore jaser, même si ça fait un peu plus d'une semaine, ce qui n'est pas bon signe pour le principal intéressé. En étant Joe Biden, qui pensait balayer ça sous le tapis et merci, bonsoir, c'est réglé. Pour l'avoir un peu exploré la semaine dernière, on n'y reviendra pas, mais avoir l'air affecté est beaucoup plus dommageable, surtout pour les Américains, aux yeux de tous. Ce n'était pas gagné d'avance, mais c'est pas particulièrement reluisant pour lui. En coulisses, on veut peut-être essayer de trouver un remplaçant. Lui dit tantôt vouloir rester, tantôt vouloir partir. Qui dit vrai? Les enregistrements cette semaine où il disait qu'il savait qu'il n'avait pas fait une bonne performance... Évidemment, ça serait se mettre la tête dans le sable de dire que ça s'est bien passé. Même Barack Obama était sorti pour dire ça arrive des fois, des soirées où on performe moins bien, tout ça, et en voulant tentant de relativiser. Et même, certains sondages vont jusqu'à dire que si son épouse se présentait, Michelle Obama, elle aurait de sérieuses possibilités de gagner sur Donald Trump. Mais évidemment, quand on demande à la principale intéressée, il n'y en est pas question et elle n'y tient pas. Donc, peine perdue pour plusieurs. En même temps. Est-ce que rendu à l'urne, elle aurait réellement de réelles chances de gagner? On sait jamais. Mais la question est bel et bien lancée. Qui pourrait remplacer Joe Biden? Ce n'est pas chose faite. L'élection la plus récente, en date d'hier, déjà, ou ce matin très tôt, selon le décalage horaire, les Britanniques se levaient avec un tout nouveau gouvernement et pas rien qu'un peu, au point que même les analystes politiques qui ont regardé les estimés hier soir, heure britannique, hier soir au moment d'enregistrer, bien sûr, jeudi soir, ben, dans la nuit de jeudi à vendredi, heure britannique, avec les premiers estimés, montrait le gouvernement de gauche à 410 sièges d'avance ou en voie d'être emporté ou remporté sur les conservateurs sortants qui étaient à 150, 160, 170. Donc, c'était une dégelée solide, comme on peut si bien le dire. Une remontée de plus de 200 sièges pour l'un, une baisse de 210, 220 pour l'autre. C'est vraiment une hécatombe du côté du gouvernement conservateur britannique. Donc, c'est le Parti travailliste qui a remporté, et ce, d'une manière assez facile. Les deux tiers du Parlement britannique seront occupés par le Parti travailliste. C'est 412 sièges sur une possibilité de 650 qui entreront par la grande porte. C'est à peu près le deux tiers, si ce ne l'est pas. Calcul facile, non, vraiment pas. Feront leur entrée sous la bannière du Labour, le nom anglais du parti. La victoire est de l'ordre de celle de Tony Blair en 1997, qui lui avait fait 418 députés travaillistes élus. La dernière fois qu'un gouvernement de gauche au Royaume-Uni prenait le pouvoir, en fait, perdait le pouvoir, c'était en 2010, donc ça faisait 14 ans que les conservateurs étaient au pouvoir et se sont enchaînés moult premiers ministres depuis. Rishi Sunak n'aurait pas réussi son défi, lui aussi, d'amener des élections anticipées comme en France. C'est drôle, on dirait que de garrocher les gens dans une élection qu'ils n'avaient pas nécessairement demandé, ça les intéresse pas de vouloir redonner le pouvoir. Keir Starmer, nouveau premier ministre, a recentré son Parti social-démocrate après être devenu le chef en 2020 et peut savourer sa victoire, son arrivée à Downing Street. Il la doit aussi en partie à ses adversaires conservateurs que les électeurs ont massivement désavoué. Après 14 ans au pouvoir et 5 premiers ministres, dont 3 depuis les dernières élections générales, la volonté de changement était forte. S'il a remporté une grande majorité des sièges, le Parti travailliste n'a obtenu que 33 % du vote populaire, donc un peu comme dans nos élections et nous autres aussi, 33 % des suffrages et 60 plus % de la députation. C'est pas un pourcentage, comme d'habitude, mais c'est notre système britannique qui le veut ainsi. Ancien avocat des droits de la personne et procureur, le nouveau dirigeant qui a été anobli pour son travail en matière de justice criminelle et se fait appeler Sir Keir, ne brille pas par son extravagance en 2022. Le journal The Guardian rapportait même qu'il avait sermonner les membres de son caucus en leur demandant de cesser de dire aux journalistes qu'ils étaient plates. Je ne suis pas plate. Dans ce cas-ci même, ce matin, la rencontre avec le roi Charles a déjà été faite. Le roi Charles lui a confié les clés et le mandat de diriger un gouvernement au Royaume-Uni, comme il se doit, en bonne et due forme. Donc, sans être une assermentation officielle, il y a eu la poignée de main avec le roi Charles qui a été faite. Plusieurs dossiers sont déjà sur la table. Son parti devra, entre autres, connecter avec certaines régions industrielles du nord de l'Angleterre qui n'ont pas voté nécessairement pour eux depuis quelque temps, pour son parti qui est normalement des comtés acquis pour le Parti travailliste. Ce sont plutôt des gens qui ont voté pour Boris Johnson lors de la dernière élection en 2019. Liz Truss, c'est-tu bien elle qui a duré moins longtemps que la salade, et Rishi Sunak qui a envoyé des élections dans la gorge des Anglais et qui ne l'ont bien évidemment pas réélu. Le Brexit a énormément fait mal également. On était pour, on était contre. On a fini par être contre, on est redevenu pour. Rien ne va plus non plus de ce côté-là. Et ce qui est le plus important, c'est une opposition affaiblie. Dans ce cas-ci, donc, le gouvernement aura l'embarras du choix pour passer des réformes, pour remettre peut-être certains chantiers sur la route ou d'en arrêter d'autres. La majorité absolue, comme ils l'ont reçue hier, ils l'auront reçue jeudi soir. Évidemment, c'est bon pour eux. L'opposition, voilà, est à 140-ish. Donc, quand même que tous les autres s'associent, il y a quand même un 412 d'avance. Donc, c'est assez impossible quand même que l'opposition complète déciderait de se braquer. Donc, pour ça, ça va bien pour le tout nouveau premier ministre britannique en le nom de... ça va bien, je l'avais sous les yeux et là, j'ai déjà oublié le nom du nouveau premier ministre. J'avais déjà un peu oublié Liz Truss, fait que déjà là, c'est pas... Keir Starmer, voilà. Pour le nouveau premier ministre, c'est vraiment battu, Rishi Sunak cède sa place dans un ultime discours qu'il a également présenté ce matin pour officiellement passer les rangs à son successeur. Donc, Keir Starmer promet de transformer le pays comme il a redressé sans état d'âme le Labour après avoir succédé au très à gauche Jeremy Corbyn en 2020. Recentrant le parti sur le plan économique et luttant contre l'antisémitisme, il s'assure vouloir relancer la croissance, redresser les services publics, renforcer les droits des travailleurs, réduire l'immigration et rapprocher le Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc lui, c'est l'inverse du Brexit, sans revenir dessus, sujet tabou durant la campagne, évidemment. Après la victoire, il a reçu les félicitations même du président ukrainien, Vladimir Zelensky, pour qui les deux pays seraient alliés contre vents et marées. Emmanuel Macron a félicité Keir Starmer, chose qu'on n'a pas faite pour Emmanuel dernièrement. Après leur premier échange, nous allons poursuivre le travail pour notre coopération bilatérale pour la paix et la sécurité de l'Europe, pour le climat et l'IA. Il est vraiment dire l'intelligence artificielle, bonne question. Les centristes redeviennent la troisième force avec 71 députés. Bouleversement de taille, le parti anti-immigration et anti-système Reform UK fait son entrée au Parlement avec seulement 4 sièges. Son chef, la figure d'une droite dure, Nigel Farage, devient député à sa 8e tentative. Comme quoi, il ne faut pas désespérer. L'ancien héros du Brexit a salué le début d'une révolte contre l'establishment. Peu importe ce que ça veut dire. En Écosse, les indépendantistes... les indépendantistes du Scottish National Party subissent un sérieux revers et n'emportent que 9 des 57 circonscriptions. Les Verts remportent 4 sièges contre un seul auparavant dans une Chambre des communes qui comptera un nombre record d'au moins 261 femmes contre 220 en 2019. Donc, 261 femmes sur, on avait dit 600 quelques. Une personne sur trois est une femme dans le Parlement britannique, ce qui est quand même notable. On s'arrête là-dessus, courte pause au retour. On continue à parler d'élections puisque les Français, eux autres aussi, iront aux urnes cette fin de semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. Caravane avec Pyramide, on est en 2019 pour la musique de cette semaine sur les ondes de CFAQ 80.3 et de CHIZ 94.3. Ça, ça a énormément joué en 2019. Je me souviens dans le sous-sol de Québec. Législative française, le premier tour a eu lieu la semaine dernière. Donc, on invitait ces 49 millions d'électeurs français qui étaient appelés à renouveler la totalité de l'Assemblée nationale, soit dans leur cas 577 députés lors du premier tour le 30 juin dernier. Le second tour aura lieu cette fin de semaine, donc l'émission sera bien évidemment post-daté, malheureusement, mais résumé des derniers épisodes tout de même. C'est le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen qui l'ont emporté au premier tour avec 33,2% des suffrages au niveau national devant le nouveau Front populaire à 28,1% et le camp présidentiel d'Emmanuel Macron à seulement 21%. Donc, le parti du président se retrouve en troisième position, ce qui fait en sorte évidemment que son parti n'est plus le principal dirigeant pour le Parlement français. Donc, c'est le parti de, comme je disais, Marine Le Pen, Jordan Bardella, qui domine présentement les intentions de vote, au sens où ils ont un avantage, sûr et certain, mais ce n'est pas complètement gagné non plus, d'où le deuxième tour qui a lieu cette fin de semaine. Le deuxième tour confirmera s'ils réussissent leur pari est de former un Parlement majoritaire, puisqu'ils sont à la portée de cette majorité-là. Il leur manquait peut-être un peu 5 à 10 sièges maximum pour devenir un Parlement de droite majoritaire, très important. Tandis que le nouveau Front populaire, c'est un rassemblement des partis de gauche qui tentaient de barrer la route à Marine Le Pen notamment. C'est entre autres le mandat que se sont donné le nouveau rassemblement et le parti d'Emmanuel Macron. C'est un peu mélangeant. Le nouveau Front populaire, mon Dieu, j'ai mélangé. Le nouveau Front populaire et le camp présidentiel ensemble vont tenter de barrer la route à Marine Le Pen et Jordan Bardella. Puisque, évidemment, en France, oui, on est sorti massivement pour aller voter. On est allé voter même à plus des deux tiers comparativement à la présente élection. On avait à peine dépassé la moitié des électeurs inscrits. Entre 65 et 67% pour le premier tour, comparativement 47,5%. Donc, on n'était même pas à la moitié en 2022. C'est donc un signe criant que les Français voulaient du changement pour vrai, eux aussi, dans leur élection. Puisque normalement, lorsque l'on veut que le gouvernement change, on sort davantage voter. Ça a été presque le cas au premier tour, comme il y a encore beaucoup de luttes qui sont serrées. Comme on le disait, il y avait plusieurs luttes qui étaient à trois, étant donné qu'il y a et le Front populaire, et le Rassemblement national, et la coalition d'Emmanuel Macron. Ça fait en sorte que ces élections-là à trois, on a demandé à celui qui est arrivé en deuxième et troisième position de s'échanger la place, de se céder la place. Donc, si c'était, les trois premières positions, s'il n'y avait pas tout à fait une majorité qui était donnée, on disait, par exemple, pour les candidats d'Emmanuel Macron, ou les candidats du Nouveau Front populaire. On leur disait s'ils terminaient en deuxième ou troisième. Ben, donnez une chance à votre adversaire de pouvoir battre le parti de Marine Le Pen. Donc, il faut bloquer le Rassemblement national. Et dans ce cas-ci, ben, Emmanuel Macron n'est pas particulièrement enthousiaste de devoir partager les pouvoirs, entre guillemets, de vouloir, dans ce cas-ci, donner plus de temps d'antenne à Marine Le Pen ou à d'autres partis un peu plus extrémistes, puisqu'ils se sont tous assemblés dans des grandes factions de gauche et de droite pour tenter de simplifier le vote ou du moins tenter de barrer le chemin en premier lieu à Emmanuel Macron, puisque les deux forces, entre guillemets, gauche-droite versus le centre, c'est sûr que c'est plus intéressant que d'aller diviser le vote de gauche et diviser le vote de droite pour justement laisser passer Emmanuel Macron. Et maintenant que ceci est chose faite, on espère maintenant pouvoir barrer la route à Marine Le Pen tout court. Emmanuel Macron a exclu de gouverner avec la formation de gauche la France insoumise après les législatives. Le président français a fait cette précision en conseil avec ses ministres après le désistement de plus de 200 candidats au deuxième tour des législatives pour éviter de diviser le vote dimanche prochain en empêchant le Rassemblement national de Marine Le Pen de rafler une majorité absolue de sièges à l'Assemblée nationale française. Un tel scénario ne s'était pas produit en France depuis l'occupation il y a 80 ans. En dépit du désistement de plusieurs candidats macronistes au profit de la coalition de gauche Nouveau Front populaire pour tenter d'empêcher la majorité de droite, le président Macron a prévenu qu'il n'était pas question de gouverner avec la France insoumise après les législatives, fondée en 2016 par Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise est un parti politique qui prône l'écosocialisme, qui allie les doctrines écologistes et marxistes. Se désister aujourd'hui pour des élus de gauche face au Rassemblement national ne signifie pas gouverner demain avec le LFI. Peu après, le premier ministre Gabriel Attal en a rajouté en affirmant sur son compte Twitter qu'il n'y a pas et il n'y aurait jamais d'alliance avec la France insoumise. Donc, on veut être clair. Oui, on laisse peut-être la place à la gauche, mais ce n'est pas parce qu'on approuve la gauche, mais bien parce qu'on n'aime pas Marine Le Pen. Fait que c'est pas complètement non plus différent des autres élections, tu sais. Et ça va arriver aussi au Québec et au Canada aussi. On veut voter contre celui qu'on n'aime pas, donc on vote pour celui qui a le plus de chances de gagner et non pas en faveur de celui qu'on veut réellement en place. Malheureusement, justement, dans notre système britannique électoral, surtout Canada-Québec, ce qu'on veut, c'est faire gagner un siège davantage que faire gagner la personne qui est dans cette chaise-là. Techniquement, il faudrait toujours voter pour la personne et non pas pour le parti au global. Mais c'est sûr et certain que s'il y a un parti avec lequel on s'entend un peu moins bien pour faire barrer la route, il faut peut-être voter pour celui pour lequel on n'aurait pas naturellement voté. C'est un peu ce que la France va vivre prochainement et qui plus est, un gouvernement minoritaire, si justement Marine et Jordan ne remportent pas leur pari à eux d'être majoritaires. Ça va donner une France, comme plusieurs analystes le disent, assez peu ou en tout cas convenablement gouvernable. Ça risque d'être beaucoup plus difficile de devoir avoir besoin de faire des coalitions, de devoir s'allier avec d'autres partis élus pour tenter de faire adopter des projets de loi ou de faire adopter des réformes. Évidemment que si et la gauche et Macron ensemble sont capables d'avoir un peu plus de votes, parce que c'est très serré en ce moment au pourcentage. C'est quand même que Marine soit à 33, Les deux autres, 28-21, ensemble, ça fait 49. Donc, on dépasse le 33, mais ça fait quand même également en sorte que si eux tombent majoritaires, les pourcentages n'auront plus d'importance, encore une fois, puisque le nombre de personnes supplantera le tout. Second tour, voilà, il y a d'autres, il y a plusieurs élections qui restent à être complétées parce que justement, il y a des élections à trois, il y a des duels, il y a des trios qui s'affrontent pour tenter d'obtenir. Évidemment, ben, on a demandé, comme je le disais plus tôt, à ceux qui avaient soit un peu moins de chance ou qui, si on envoyait tous les votes à celui qui est en deuxième ou première position, ça les rassurait et ça leur donnerait une majorité dans les différents comtés où il y a encore des élections qui auront lieu pour ce deuxième tour. Mais pour l'instant, la France s'enligne également pour un changement de gouvernance complet. Y aura-t-il une majorité absolue comme au Royaume-Uni? L'histoire s'écrira tout bientôt, c'est le cas de le dire. Est-ce que Marine Le Pen et Jordan Bardella remporteront leur pari de gouverner de façon majoritaire la France? C'est la grande question pour le second tour français. On s'arrête là-dessus. Au retour, on complète l'émission du deuxième service cette semaine. Vous écoutez le 88.3 CFAQ à Sherbrooke et Chiz 94.3 à Québec. Perséide avec contre-plongée sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Suivi de dossier que je pensais pas faire, mais qui est, encore une fois, complètement niaiseuse. Dernièrement, fin mai, je pense qu'on en avait parlé à l'émission. Non, j'étais déjà parti en Europe, donc on n'avait pas eu le temps de l'aborder, mais fumer sur scène dans un contexte artistique et l'interdire est une violation injustifiée de la liberté d'expression selon la Cour supérieure. On donnait donc raison à trois théâtres de Québec qui avaient été mis à l'amende par le ministère de la Santé et de les acquitter des amendes qu'ils avaient obtenues. Le Trident, l'Abordé et Premier Acte avaient été mis à l'amende entre 2017 et 2019 pour avoir laissé, entre guillemets, un comédien ou une comédienne fumer une cigarette de sauge. Je répète, une cigarette de sauge sur les planches des trois théâtres. Dans les trois cas, une plainte provenant du public avait convaincu l'État de dépêcher des inspecteurs sur les lieux durant les représentations. Chaque théâtre avait par la suite reçu un constat d'infraction de 500 $ pour avoir contrevenu à la loi concernant la lutte contre le tabagisme. Contestant ces amendes au nom de la liberté artistique, les trois théâtres ont été déboutés en 2021 par le juge de première instance Yannick Couture. Ce dernier estimait que de fumer sur scène ne constituait pas un geste expressif et ne véhiculait aucun message. Un grand passionné de théâtre, il invitait alors les créatrices et créateurs à utiliser des objets factrices ou à faire semblant. Donc, plutôt que de fumer des cigarettes de sauge, donc qui ne sont pas de vraies cigarettes, vous devriez fumer des bouts de carton ou faire le geste avec vos doigts. Parce que c'est vraiment la même chose, faire semblant de fumer, que de fumer une fausse cigarette. Évidemment, Yannick Couture. Y voyant un grave précédent, les théâtres appuyés par le milieu culturel ont porté la cause en appel. Les démarches des théâtres visaient principalement à soustraire le contenu artistique présenté sur scène des dispositions des lois concernant les luttes contre le tabagisme. Leur combat, disait-il, n'était pas de revendiquer le droit de fumer sur scène, mais de représenter une certaine réalité et non pas commencer à mimer tous les gestes parce que « oh, faut pas boire d'alcool, oh, faut pas fumer, oh, faut pas faire ci, faut pas faire ça ». Cette réalité passe pour certaines œuvres, particulièrement dans le réalisme, par l'acte de fumer une cigarette et non en mimant ou en ayant recours à des accessoires. Le juge Jean-François Aymon, lui, leur a donné raison sur toute la ligne. Ça, on était au mois de mai. Un mois plus tard, fin juin, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac demande au gouvernement de porter en appel la décision de la Cour supérieure qui autorise l'acte de fumer une cigarette sur scène. Cette coalition a demandé officiellement au ministère de la Santé d'entamer des démarches, puisque selon elle, le jugement invalide certaines dispositions de la loi concernant la lutte contre le tabagisme. Donc exactement ce pourquoi les compagnies de théâtre avaient porté leur jugement en appel. Pourquoi l'État veillerait-il à protéger les employés non-fumeurs contre la fumée de tabac et les émanations de vapoteuses dans les banques, les usines et les restaurants, mais pas ceux qui œuvrent dans les théâtres et autres travaux artistiques? Parce que leur point de défense de cette coalition-là, c'est que si jamais dans les employés du théâtre, il y avait une femme enceinte, ben, elle serait en contact avec la fumée et ça serait pas bon pour son bébé. C'est assez mince comme défense, mais malheureusement, c'est tout ce qu'ils ont trouvé. D'un coup également, qu'il y aurait une spectatrice qui serait elle aussi enceinte et qui serait potentiellement incommodée par cette dite fumée. Ce serait pas correct. Malheureusement, pour ce genre de pièce de théâtre-là, on l'écrit habituellement « usage » de semblable, tu sais, comme un film ou une pièce de théâtre, on l'écrit, pas une pièce de théâtre, mais une émission, on peut contenir des traces de tabac ou d'utilisation de tabac. Généralement, c'était fait aussi dans ce genre de pièce de théâtre-là. Fait qu'évidemment, si une femme enceinte peut être incommodée par la fumée, j'ai envie de dire que les comédiens ne feront pas exprès non plus pour aller leur souffler la fumée d'en face. Qui plus est, qui n'est pas de la fumée de tabac, mais bien de la fumée de sauge. Donc, qui n'est pas aussi dommageable que du tabac et non plus pas de la fumée crachée d'en face des spectateurs non plus. Donc, évidemment, plutôt que de dire que ça n'a pas de bon sens, Québec a décidé de contester en appel le jugement de la Cour supérieure qui permet de fumer une cigarette sur scène dans le cadre de la performance artistique, donc donnant raison à la Coalition pour un avenir sans tabac. Le gouvernement ira, eux aussi, de l'avant en déposant, eux aussi, un appel de ce nouveau jugement qui a été rendu. C'est malheureusement la nouvelle confirmée ce matin, un désarroi unanime dans le milieu culturel face à cette pareille aberration, selon le co-directeur général du Trident, Marc-André Malot, qui a reçu la requête d'autorisation d'en appeler du nouveau jugement. Trident, Bordé, Premier Acte sont toujours au cœur de la situation. Appuyé de toutes parts par le milieu artistique, les trois théâtres avaient porté en appel cette décision. Jean-François Aymond avait donné raison. Le tribunal estime que le juge de première instance a commis une erreur de droit et une erreur manifeste en déterminant, en concluant qu'en l'espèce, l'acte de fumée sur scène dans les pièces de théâtre en cause n'était pas dans le champ de protection des chartes. Tous conviennent au premier plan, les appelants, que l'acte de fumée dans un endroit public pour le simple plaisir de les faire ne constitue pas une activité expressive. Mais là, on est dans le contexte d'une pièce de théâtre. C'est évident que ce n'est pas juste un comédien qui s'allume une clope pendant sa prestation parce qu'il a le goût de fumer là, ou de sortir sa vapoteuse parce que ça y tente. C'est dans la pièce de théâtre, c'est dans le moment, comme s'il fallait... Ben, c'est comme si on demandait à un film de faire une version sans fumée secondaire pour que les gens qui veulent arrêter de fumer puissent regarder le film quand même. Aucun rapport. Lorsque ce même acte de fumée dans un lieu public peut être qualifié d'activité expressive protégée parce qu'il tend à transmettre un message et une signification, l'effet combiné de cette loi et de ce règlement restreint le droit à la liberté d'expression. Donc, d'empêcher de fumer parce que ça pourrait incommoder, et encore là, pourrait incommoder, ça n'a pas incommodé quelqu'un, ça pourrait incommoder potentiellement un moment donné quelqu'un un jour peut-être, comme en genre de prévention. Et c'est donc, en date d'aujourd'hui, pour arriver à, cette fin de premier chapitre, 500 personnes issues du milieu culturel et artistique qui ont signé une lettre ouverte dénonçant l'attitude du gouvernement. Parce qu'évidemment, faire une pièce de théâtre, là, je fais une parenthèse, mais tu sais, faire une pièce de théâtre, par exemple, sur le Québec des années 60, 70, 80, et que personne fume, ce n'est pas représentatif de la réalité de l'époque. C'est pas vrai. Tout le monde fumait dans le temps. On peut pas faire une pièce réaliste qui se passerait au Québec dans ces années-là sans que personne fume. Ça n'a aucun sens. Et c'est pas vrai que les comédiens vont commencer à y aller avec des bouts de carton pour faire semblant que c'est des cigarettes, ce n'est pas la même chose. C'est comme boire de l'eau dans une tasse vide ou boire un faux café dans une tasse vide. On le voit qu'il n'y a rien dans la tasse. Fait qu'imaginez un bout de bois peinturé blanc pour faire semblant que c'est une cigarette. Les communautés artistiques se disent consternées, surpris par l'intervention paternaliste de l'État québécois qui tente à nouveau d'interdire l'action de fumer sur les planches dans le cadre strict d'une représentation en s'adressant cette fois à la Cour d'appel. Le procureur général du Québec a pris la décision la semaine dernière de contester le jugement rendu par Jean-François Aymon de la Cour supérieure. Le juge Aymon a placé la liberté d'expression artistique au centre de sa décision avant l'acte de fumer. Malgré ce nouveau jugement, Québec a décidé de revenir à la charge. Une semaine après le dépôt de la requête en autorisation d'appel, la communauté artistique se mobilise pour soutenir les théâtres. L'Abordé, le Trident, premier acte impliqué dans la saga judiciaire. On n'aura jamais autant parlé du Théâtre de Québec à cette émission aussi, en étant à Sherbrooke. Ces trois lieux de diffusion de Québec avaient été mis à l'amende dans une lettre ouverte dont Radio-Canada a obtenu copie. Plus de 500 signataires demandent au gouvernement Legault de faire marche arrière dès maintenant et de s'engager à modifier la loi concernant la lutte contre le tabagisme comme l'a ordonné le juge Aymon dans son jugement à lui. La Cour supérieure affirmait que l'interdiction de fumer dans les lieux publics doit comporter des exemptions dans le cas où l'acte de fumer est le fait de comédien dans le contexte d'une pièce de théâtre. Parmi les signataires, on y retrouve notamment les acteurs, metteurs en scène, actrices, auteurs, autrices, Marie-Ginette Guay, Lorraine Pintal, Alexandre Curzi, Alexis Martin, Martin Dreyville, Isabelle Hubert, Erika Soucy, Anne-Marie Olivier, etc., etc. Pourquoi porter cette décision en appel? Il nous semble plutôt que le gouvernement devrait saisir l'occasion de modifier la loi concernant la lutte dans le sens proposé par la Cour supérieure. Nous les pressons d'agir en ce sens. Comme par surprise, le ministre de la culture, Mathieu Lacombe, est discret jusqu'ici sur cet enjeu. Il a été invité à réagir à la sortie du milieu culturel. Il a préféré réserver ses commentaires par respect pour les procédures judiciaires. On suit la situation de près. On a laissé simplement entendre son attaché de presse. Donc, c'est même pas Mathieu Lacombe, ministre de la culture, qui prend la défense de sa culture. Il laisse ça entre les mains du gouvernement. Puis en tout cas, on va suivre le dossier. Puis ça va être ça. Gna, 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 gna. Nathalie Roy, elle, n'avait pas eu la même retenue lorsque les théâtres visés par les amendes ont décidé de porter leur cause en cause supérieure. Insatisfait du jugement de la Cour du Québec, lorsqu'il y aura une décision finale, notre gouvernement prendra les moyens nécessaires pour protéger la liberté artistique, avait-elle dit. Surprise, Mathieu Lacombe fait le tapis. Nathalie Roy avait dit que le gouvernement agirait selon le jugement qui allait être rendu. Décevant. Un autre ministre de la CAQ à mettre dans le bac à compost. Mathieu Lacombe, ministre des Arts et de la Culture, qui se fout des arts et de la culture et qui laisse tomber le tout. Voilà, la CAQ. On s'arrête quelques instants. Au retour, la conclusion de l'émission cette semaine, c'est d'écouter le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Valence avec Parasol, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Parlons, restons à la culture, restons dans les séries télé, puisque les nominations pour les prix des galas, du gala des Gémeaux, qui aura lieu cet automne, sont officiellement sorties, donc... À défaut d'avoir un ministre qui se fout de la culture, on va en parler de la culture, nous autres, ici à l'émission, avec 15 nominations chacune. C'est comme ça que je t'aime, saison 3 et avant le crash, saison 2, sont en tête des nommés pour la prochaine édition du gala en tête avec Sorcière, qui compte également... En fait, ils sont à 3 à avoir 15 nominations. Ça fait quand même... En fait, ce sera une lutte à trois dans plusieurs catégories, visiblement. 12 nominations pour le Bye Bye. Indéfendable la soirée mammouth en récolte 8. Cinquième rang, inspiré, expiré, plan B, premier trio en récolte 7. Alerte, Lac Aïnou et Lac Mégantic en obtiennent 6. Lac Mégantic, ceci n'est pas un accident. Donc, le documentaire de Philippe Falardeau et non pas la série. Enquête, Radio-Canada obtient également des nominations, de même que la facture. Et sinon, pour les catégories les plus prestigieuses, notamment, meilleure série dramatique, Avant le crash, saison 2, C'est comme ça que je t'aime, saison 3, Femme sur UNITV, me semble. L'Empereur, saison 2 à nouveau, et Plan B, saison 4, la saison de Pierre-Luc Funk. Pour les dramatiques annuelles, donc qui ont deux saisons avant et après Noël. Cinquième rang, saison 5, dernière saison, Alerte, saison 4, Indéfendable, la saison 2, Les moments parfaits, saison 3, et Sorcières, première saison, du côté de TVA. Sauf cinquième rang, ce sont toutes des séries qui sont à TVA, ceci dit. C'est vrai, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Fabienne Larouche recommence à boycotter les Gémeaux. Donc, pourquoi Stat n'est pas en nomination dans Dramatique annuelle? C'est parce que elle a décidé de bouder dans son coin. Meilleure comédie dramatique ou comédie complètement lissée, saison 3 du côté de Nouveau, Inspiré, Expiré. Qui compte, Jean-François? Inspiré, Expiré, j'ai de la misère à le replacer, mais c'est dans la catégorie comédie. La candidate à Radio-Canada, La Caïnou à Radio-Canada et Léo, saison 5 du côté de TVA. Meilleur spécial humour, Le Club Soli, la saison 3, ultime saison. Entre deux draps, saison 4, ultime saison. Le spécial de fin d'année d'Infoman, le Bye Bye 2023 et Le Grand Ménage des Fêtes, saison 4. Meilleure émission spéciale ou série dans la catégorie variété. En direct de l'univers, saison 15 déjà. Le 45e Gala de la Disque et l'ultime de Louis-José Houde. Révolution, saison 5. Le grand concert de la super Franco-Fête 2023. Et Zénith, saison 2 de Louis Morissette et Véronique Cloutier. Entrevue talk show, meilleure émission ou série, Je viens vers toi, avec Marc Labrèche, à nouveau, La vraie nature à TVA, Les grandes entrevues de Patrice Roy, L'entrevue d'Élise Appy et Tenu Napartouk à Koudjouak. Pour une fois, ici à TV, et tout le monde en parle, la 20e saison sur les ondes de Radio-Canada. Émission de jeu, Sans génie, saison 5, Chaque seconde compte. La nouvelle émission de Julie Snyder à nouveau. Génial, saison 14 à Télé-Québec. La langue dans ma poche, ce fameux quiz qui a coûté 1,5 million de dollars grâce à Jean-François Roberge à Télé-Québec. Je ne sais plus si c'était 1,5 million, mais en tout cas, ça avait un montant pas de bon sens. Puis le décor, il n'y a pas vraiment 1,5 million là-dedans, mais en tout cas. Les petits Anna, saison 3 à Radio-Canada. Télé-réalité, pour la première fois, Big Brother Célébrité, saison 4. Chef des bois à Télé-Québec, saison 3. L'amour est dans le pré, à nouveau. Le restaurant à Zest et TVA. Survivor Québec, saison 2, à nouveau. Magazine culturel, c'est juste de la TV, saison 17. Culturama, saison 3, pour emporter, saison 6. Retour vers la culture, saison 3, l'entièreté à RTV. Affronte quand même, sucré-salé, saison 22. Dans la catégorie magazine culturel, ça faisait longtemps, je pense, que Sucré-Salé n'avait pas été en nomination. Donc, ça pourra peut-être conforter le premier arrivage de Mélanie Ménard à l'émission. Donc, saison 22 en nomination au gala dans la catégorie magazine culturel. Service ou intérêt social dans les médias à Télé-Québec, des hommes en or et Rosalie, deux hommes en or et Rosalie également à Télé-Québec. L'émission possible, la vie est un carnaval, tout le monde s'habille, je pense que c'est tous à Télé-Québec également. Peut-être qu'il y en a un là-dedans, TV5. La vie est un carnaval, je pense à TV5. Mais je pense à Télé-Québec aussi. Donc voilà pour les émissions en tant que telles. pour les comédiens, vais-je avoir le temps de me rendre jusqu'à la catégorie? Puisqu'il ne reste pas assez de temps, mais on pourra y revenir la prochaine fois. Bon, y allons-y rapidement. Mais en premier rôle féminin dans une dramatique, Erika Suarez. Panetta estime après le déluge. Karine Vanasse avant le crash. Amélie B. Simard, Bon matin Chuck, couleur de réduire les méfaits. Marilyn Gaston-Gay, C'est comme ça que je t'aime, bien sûr. Meilleur premier rôle masculin dans une dramatique, Émile Procloutier, avant le crash. Bon matin Chuck, Bernard Fortin, pour le Bon matin Chuck, couleur de réduire les méfaits. Lenny Kim, pour Femme, dans l'épisode 7. Ouais, c'est ça, c'est l'émission... à Uni, si je me trompe vraiment pas pour Femme. Jean-Philippe Perra, l'empereur, rôle dramatique. Et Pierre-Luc Funk, plan B, rôle principal. Dans les comédies, Christine Beaulieu, L'œil du cyclone. Catherine Chabot pour La candidate. Catherine Souffron pour La Caïnou. Émilie Bibeau pour Tant de chiens. Sylvie Léonard pour Le retour d'un jeune fille. Dans les premiers rôles masculins, toujours dans les comédies, Joachim Robillard, L'air d'aller. Marc Labrèche, La petite vie. Surprenant, j'ai toujours dit que c'était lui qui était le moins bon. Steve Laplante, Léo, François Bellefeuille, Tant de chiens et Robin-Joël Cool également pour Tant de chiens. L'entièreté des nominations est bien sûr sur le site des Gémeaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service sur les ondes de CFAQ 88.3 et de Chiz 94.3. À la semaine prochaine. Salut.